Voilà. J'avais donc à l'époque beaucoup de mal à faire entendre cette conviction que nous avions grand besoin d'une pensée féministe qui réinvestisse le corps des femmes comme un champ de recherche légitime et qui s'efforce surtout de le désinsérer de la gangue d'aliénation dans laquelle il avait été enfermé. Ce que je proposais comme argument à l'appui de cette proposition de réinvestissement, c'est que nous devions prendre en compte une série d'évolutions, qu'elles soient théoriques ou concrètes, qui annonçaient ensemble une véritable mutation anthropologique. La dissociation de la procréation et de la sexualité a permis aux femmes de s'imaginer une vie sexuelle enfin libre et peut-être même égalitaire. La disqualification concomitante d'une définition maternaliste de l'existence féminine s'est accompagnée d'une aspiration à l'autonomie qui peut désormais se déployer dans l'horizon d'une vie éventuellement non maternelle. La mise au jour de la foncière fluidité des genres a rendu légitimes toutes les options genrées et sexuelles, autorisant des choix radicalement inédits à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Au regard donc de ces modalités nouvelles dans lesquelles les individus contemporains éprouvent leurs conditions incarnées, les outils théoriques à notre disposition me paraissaient singulièrement inadéquats. Le vis-à-vis traditionnel entre un féminisme universaliste et un féminisme différentialiste ne fait selon moi plus sens et je pense même qu'il est devenu franchement obsolète au regard de la condition inédite qui est celle des femmes aujourd'hui. Elles se condensent dans l'impératif qui leur est fait d'assumer ensemble les dimensions privées et publiques de leur existence. On leur demande d'être des individus pleinement sociaux sans se plaindre de devoir simultanément continuer d'assurer l'essentiel des charges privées. Pour le dire plus clairement, il se trouve qu'aucun des progrès effectués quant à leur autonomie personnelle, ni aucun des droits conquis quant à leur légitimité publique n'ont érodé les mécanismes perpétuant leur disponibilité intime. Tout s'est passé comme si les femmes avaient dû payer leur émancipation du prix de leur soumission corporelle perpétuelle. L'enjeu du moment féministe où nous sommes consiste précisément à réinvestir la corporité féminine pour penser les conditions nouvelles d'une émancipation qui soit incarnée dans une perspective épistémologique qui permet de renverser le stigmate essentialiste. Car ce n'est pas essentialiser la condition des femmes contemporaines que d'en explorer les caractéristiques sexuées. C'est mettre au jour ce scandale de l'objectivation perpétuée de nos corps disponibles et les concevoir au prisme de la subjectivation. Ce n'est pas verser dans le différentialisme que de penser la maternité ou la génitalité. C'est révéler la puissance progressive des modalités dans lesquelles elles sont vécues et les redéfinir sous l'angle de leur réappropriation. Ce n'est pas non plus réenfermer les femmes dans leur nature que de prendre au sérieux la diversité des expressions incarnées, de leur rapport à elles-mêmes, aux autres et au monde, c'est poser le primat de la liberté qui nous interdit de discréditer les choix que font les femmes relativement à leur corps, notamment dans les trois grands domaines incarnés que sont l'apparence, la maternité et la sexualité. C'est très exactement ce à quoi se consacre une nouvelle génération de féministes, et j'en viens à ce second moment de ma présentation. Depuis le début des années 2010, elles font déferler ce tsunami de la réappropriation par les femmes de leur corps et plus encore de leur corps dans ses dimensions les plus intimes. Les sujets corporels féminins ont envahi le débat public de façon éparse. Depuis le début des années 2010, donc le mouvement MeToo constituant dans cette histoire un moment seulement, paroxystique certes, mais un moment de ce que j'ai donc appelé le tournant génital du féminisme. Tout a commencé avec des revendications liées aux règles, notamment celle d'une baisse de la TVA appliquée aux produits de protection hygiénique, campagne sur l'endométriose, modélisation du clitoris en 3D et représentation dans les manuels scolaires, polémiques et débats sur les modes de contraception, dénonciation des violences gynécologiques et obstétricales, explosion des révélations liées au harcèlement et aux violences sexuelles, demande d'ouverture de la PMA à toutes les femmes, organisation de groupes de parole et de multiples initiatives autour de la sexualité et du plaisir féminin, publication en rafale d'ouvrages consacrés aux organes génitaux et à leur fonctionnement. Toutes ces initiatives donc se sont développées indépendamment les unes des autres, le plus souvent en lien avec une association ou un petit groupe de militantes, mais toutes reliées entre elles par ce fil rouge de la génitalité. Progressivement donc, elles en sont venues à former une constellation dont je crois qu'on peut désormais saisir la logique et que je propose de qualifier donc de tournant génital du féminisme. Si nous avons eu alors, et notamment avec l'épisode MeToo, le sentiment d'une déflagration dans le ciel féministe, c'est que cette dynamique est venue soudainement projeter la lumière sur ce qui était resté dans l'ombre des droits conquis. Il y avait un domaine au sein duquel les femmes continuaient de subir les mécanismes ancestraux de la domination masculine, un domaine de non-prise féministe, en somme, le domaine intime de la vie sexuelle. Ce n'est pas le moindre des paradoxes de la révolution de l'émancipation que d'être née d'un combat contre l'oppression privée des femmes sans jamais avoir réussi à en déboulonner les ressorts. La volonté des militants de la deuxième vague dans les années 70, qui était celle d'affranchir les femmes du poids de leur nature procréatrice, a permis aux femmes de devenir des individus, on va dire, presque comme les autres dans la sphère sociale et publique, mais elle ne nous a certainement pas débarrassé de l'assignation immémoriale à la disponibilité privée. Les femmes ont non seulement continué d'être requises dans l'espace domestique et contraintes d'en assumer les charges, elles ont également été obligées de rester toujours des êtres à disposition. La potentialité de la prise masculine sur les corps féminins ne s'est pas dissoute dans le chaudron de l'égalité entre les sexes. Elle a fait même preuve d'une résistance assez remarquable à ces effets dislocateurs. Mais voilà donc qu'une nouvelle génération engage aujourd'hui un processus d'approfondissement qui pourrait être même de parachèvement du projet féministe. Sur le versant théorique, on redécouvre les œuvres fondatrices de la deuxième vague et sur le versant pratique, on réactive ces combats contre le contrôle, l'appropriation et l'exploitation du corps des femmes. 50 années ont passé, cependant, ce qui implique que, d'abord, de nouveaux droits ont été conquis, de nouvelles revendications sont apparues, des problématiques inconnues ont fait irruption, et si ce retour donc au texte pionnier permet certes de retrouver les mots et les concepts qui nous disent la perpétuation de l'objectivation, aliénation des femmes dans nos sociétés soi-disant émancipées, il apparaît par bien des aspects insuffisants à saisir une condition qui ne peut être assimilée à celle de nos grands-mères, ni même à celle de nos mères. Cette condition, il faut en repérer la double dimension de récurrence et d'inédit, récurrence des ressorts patriarcaux qui la fondent, et inédit des modalités nouvelles dans lesquelles ces derniers sont éprouvés. Le cadre conceptuel que je propose donc de penser, pour penser cet inédit se condense dans le féminisme phénoménologique tel que Simone de Beauvoir l'a magistralement inauguré et tel qu'il a été augmenté des travaux de la philosophe américaine Iris Marion Young, qui est importante dans mes travaux. Mon postulat de départ est double. Il soutient que l'existence comme subjectivité ne fait qu'un avec l'existence comme corporéité, ce qui est le socle théorique même de la phénoménologie. Mais j'y ajoute le constat de ce que la sexuation des corps modifie grandement les expériences vécues par le sujet incarné, selon qu'il est une femme ou un homme, ce qui constitue ici la force spécifique de l'œuvre beauvoirienne et également des travaux de Iris Marion Young. Ce que je veux ajouter ici, et ce qui me permet de revenir sur le petit constat que je faisais en introduction d'une interprétation, disons, un peu trop rapide de l'œuvre beauvoirienne, c'est que la perspective qui est la sienne, donc la perspective qui n'est pas seulement existentialiste, mais également phénoménologique, consiste à considérer le corps féminin comme étant bel et bien le lieu par excellence de la domination mâle, mais comme étant également le vecteur privilégié de l'émancipation. Autrement dit, dans une perspective phénoménologique, s'articulent ensemble les deux volets de l'aliénation et de la libération. Et c'est ce second volet de la libération corporelle que Beauvoir annonce, alors il est vrai de façon très, encore assez allusive hein, dans le deuxième sexe, mais que Iris Marion Young va reprendre et approfondir pour développer une approche donc, qui consiste à s'intéresser aux particularités, aux spécificités sexuées de l'existence féminine, étant entendu que cette dernière est toujours nécessairement située, c'est-à-dire inscrite dans une époque et une société donnée. Voilà pour les grandes lignes hein, du féminisme phénoménologique, je ne vais pas développer. Ce que je voudrais démêler aujourd'hui, c'est le sens que revêt pour moi ce mot hautement problématique dans une perspective féministe, qui est l'adjectif féminin. Un adjectif très souvent mobilisé par les écoféministes et auquel elles sont renvoyées généralement de façon critique et négative par celles et ceux qui leur reprochent leur naturalisme biologique. Ramener aux spécificités corporelles qui, depuis l'aube des temps, ont justifié l'enfermement des femmes dans le cadre subalterne du foyer, donc ces caractéristiques corporelles autour de l'hétérosexualité, notamment et de la maternité, le terme féminin est communément frappé du sceau infamant de l'essentialisme. S'intéresser aux caractéristiques féminines de nos existences, penser le corps féminin, ce serait ranimer le brasier patriarcal en réduisant les femmes aux différences biologiquement fondées de leur corporité. dans la perspective de l'égalitarisme universaliste, le féminin se présente comme l'argument insupportable permettant de catégoriser, de distinguer et donc d'extraire les femmes de l'horizon d'abstraction juridique qui fait d'elles des sujets de droit. Dans la perspective du féminisme radical et matérialiste, le féminin est assimilé aux modalités hétéronormées d'une condition subordonnée dont il s'agit précisément de s'extirper. Dans la perspective des études de genre et des études queer, le féminin apparaît indissociable de la binarité des sexes, justifiant l'assignation des individus à des rôles genrés, des rôles qu'il s'agit de déconstruire. Toute tentative pour saisir le féminin dans la matérialité incarnée de ses expressions se place donc aussitôt sous le feu de cette triple critique.